Une patiente a subi une chimiothérapie par erreur. Elle a même été opérée sans raison aucune à la suite d'une erreur médicale.
C'est bel et bien une erreur humaine qui est à l'origine de la mauvaise greffe de cœur qui a conduit à la mort d'une patiente la semaine passée.
On reparle d'une erreur médicale. Une femme est décédée après la prise d'un médicament auquel elle était allergique.
L'affaire est incroyable. Elle a pour cadre un hôpital de Grande-Bretagne. Un couple de parents blancs a donné naissance à des jumelles noires.
L'examen de la fréquence cardiaque du fœtus détecte de graves anomalies, mais le médecin assistant interprète mal cette analyse.
Une erreur de manipulation d'une pompe cardiaque qui aurait coûté la vie à un patient de 22 ans.
On reparle de cette malheureuse qui s'est vue greffer un cœur du mauvais groupe sanguin et qui est morte la semaine passée à l'hôpital. La cause exacte n'est pas révélée, mais sa nature est maintenant précisée. Ça n'est pas une erreur technique, c'est une erreur humaine qui a provoqué la tragédie.
Ben voilà qui fait froid dans le dos. En plus, vous y avez mis le paquet, hein, Stéphane Gambio, effets spéciaux et,
ouais,
tout,
et tout.
Non, mais plus sérieusement, des erreurs médicales avec des conséquences parfois dramatiques. Et les chiffres à ce propos sont assez éloquents, Stéphane Gambio.
Oui, 100 000 morts chaque année aux États-Unis suite à une erreur médicale. Comme vous le dites, ça fait froid dans le dos.
Rendez-vous aussi compte, 100 000 personnes, si vous transposez ça... Parce que ça, c'est un autre domaine où on parle beaucoup d'erreurs. Si vous transformez ça dans l'aviation, c'est un avion, un jumbo jet plein à craquer qui tombe tous les jours de l'année.
Ça, c'est Claude Picoffer, chirurgien plasticien installé à Montreux, que nous suivrons tout à l'heure dans son bloc opératoire. 100 000 morts chaque année aux États-Unis, c'est un chiffre qui est tout à fait argumenté, qu'on peut d'ailleurs transposer à la Suisse. Chez nous, on estime à plus de 2 000 le nombre de morts causées par une faute de la part d'un professionnel de la santé. En Grande-Bretagne, il a été démontré que les erreurs médicales sont la troisième cause de décès après le cancer et les maladies cardiaques.
Encore faut-il qu'on s'entende sur ce qu'on a appelle erreur médicale.
Alors en gros, c'est un incident imprévu et qui n'aurait pas dû se produire, avec un facteur humain aussi qui entre en jeu. Il y a les plus spectaculaires, hein, dans ces erreurs médicales dont on parle dans les médias. On en a eu quelques extraits tout à l'heure. Mmh. Et puis, ben, évidemment, il y a toutes les erreurs qui ne finissent pas à la une des médias, mais qui peuvent avoir des conséquences importantes pour le patient. Par exemple, l'administration d'un médicament auquel le patient est allergique ou une dose de médicament trop importante administrée suite à une erreur de calcul. Enfin, il y a toutes les erreurs peu graves, parce que sans conséquences, mais qu'il faut également pouvoir évidemment éviter au maximum.
Mais là, avec les chiffres que vous avez prononcés tout à l'heure, on peut parler d'un problème de santé publique, carrément.
Oh, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la raison pour laquelle une prise de conscience est en train d'avoir lieu parmi les professionnels de la santé du monde entier. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a édicté il y a 2 ans un certain nombre de recommandations pour faire en sorte que les erreurs médicales soient moins nombreuses, finalement, pour éviter ces catastrophes.
Mais on a envie de dire, il faut faire attention, point. Vous voyez ce que je veux dire?
Non.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ah ben, alors, se calquer sur ce qui est pratiqué dans l'aviation. C'est ce qu'on va découvrir ce matin. Claude Picoffer y faisait rapidement allusion tout à l'heure. Dans le domaine de l'aviation, toute erreur peut évidemment avoir des conséquences absolument fatales. L'aviation s'est donc dotée depuis bien longtemps de systèmes de sécurité permettant justement d'éviter les erreurs. Et le monde médical s'inspire depuis quelques années et de manière toujours plus intense de ce qui se fait dans le domaine de l'aviation. Quelques explications apportées par le chirurgien plasticien Claude Picoffer.
Je vois dans ce que moi j'aime appeler la culture d'aviation, 3 éléments clés où l'on peut nous travailler, et c'est des travaux qui se font actuellement. Ces 3 éléments sont la gestion de l'erreur, comment traiter l'erreur, être conscient que s'il y a une erreur, l'essentiel n'est même pas de trouver qui est le fautif pour pouvoir le punir, mais c'est de trouver où est la faute et comment pouvoir l'éviter dans le futur. Ça, c'est un des volets. Le deuxième, c'est ce qui est absolument normal pour l'aviation, c'est de travailler avec des checklists. Les checklists sont un énorme facteur de sécurité qui permettent d'éviter des oublis, d'éviter justement quelque chose comme une erreur de dosage. Si c'est sur une checklist, ça peut être évité. Et le troisième volet, peut-être tout aussi important, et puis vous réalisez très vite que même ces 3 volets sont mêlés entre eux, le troisième volet, c'est pour tout acte qu'on fait, toute mission, chez nous on pourrait dire pour une opération, de faire un briefing au début, c'est-à-dire de rassembler les intervenants et de dire voilà ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et aussi, presque aussi important, le débriefing, c'est-à-dire après l'intervention, qu'est-ce qu'on a fait bien, Où est-ce qu'on n'a pas travaillé de façon optimale? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois?
Donc, trois volets. Un, analyser la faute. On y reviendra tout à l'heure. Deux, les checklists. Trois, les briefings, débriefings. Je vous propose d'aller voir. Alors, concrètement, comment ça se passe? Je vous emmène à l'hôpital du Chablais sur le site d'Aigle. On va suivre un patient de son arrivée à l'hôpital jusqu'à son opération. Faites pas cette tête. Vous allez vite réaliser que les checklists, les briefings, débriefings sont dorénavant utilisés de manière systématique. Même pour une intervention a priori mineure, c'est une intervention a priori mineure à laquelle on va assister,
rassure,
je vous rassure.
Des hectolitres de sang, c'est pas trop mon truc à cette heure-ci, vous savez.
Ça fait pas longtemps finalement qu'on pratique justement de la sorte dans cet hôpital, mm-hmm. c'est-à-dire avec des checklists, briefings, débriefings. Notre patient a donc été accueilli à la réception, on lui a demandé l'ensemble de ses coordonnées. Il repart avec son dossier personnel sous le bras, direction le premier étage de l'hôpital.
Hôpital de jour, chirurgie, gynécologie.
D'accord.
Nous y voilà. Bonjour, Kakamo, je viens pour une petite opération.
Oui, tout à fait. Je vous laisse patienter un petit instant à la salle d'attente et je viens m'occuper de vous, d'accord?
Très bien, au revoir. Donc là, vous avez donné votre dossier à l'infirmière.
Oui.
Vous êtes dans quel état?
Ah, moi, je vais très bien.
Ouais.
Je suis quelqu'un d'assez confiant, de nature, on va dire.
On fait un sujet aujourd'hui sur les erreurs médicales. On essaie de prendre conscience de ce qui se passe dans les hôpitaux, de quelle manière on essaie justement de les éviter. Vous êtes un peu au courant de ce qui va se passer pour éviter qu'on vous opère au mauvais endroit, de vous confondre avec un autre patient, par exemple?
Non, alors je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe dans un hôpital à ce sujet. Par contre, du moment où je m'occupe d'une petite entreprise, je connais la problématique. Je sais que quand on a un problème... On essaye d'abord de le résoudre, on va dire en pompier, parce qu'il faut trouver une solution à notre problème. Par contre, on essaye toujours après de trouver des solutions à long terme. Et puis, de savoir. Alors, je pense que forcément, dans un hôpital, c'est la même chose. Comme quoi, je dirais, un hôpital est une entreprise.
Juste après l'encadrement à gauche. Monsieur Kakamo, je vous laisse venir avec moi. Voilà. Alors, avant de vous expliquer, je dois d'abord faire une ou deux vérifications par rapport à votre identité. Vous êtes monsieur ?
Kakamo.
Prénom ?
Stéphane.
Date de naissance ?
14 mars 62.
C'est parfait. Vous savez pourquoi vous venez ?
Oui, je viens pour une petite opération, en fait, d'une boule de graisse.
Voilà. À quel endroit ?
Ça fait sous l'écoute gauche.
D'accord. Et est-ce qu'il y a autre chose ?
J'ai encore un petit... Sous le bras, j'ai une petite peau, en fait, que le docteur va m'enlever en même temps.
C'est parfait. Je vous applique juste un bracelet, en fait, avec votre identité. Donc, ce bracelet, je vous le couperai une fois que vous quittez l'hôpital, mais vous le gardez jusqu'à votre départ. De toute manière, vous ne pouvez pas l'enlever sans le couper.
Comme ça, je me rappelle comment je m'appelle.
Exactement. Vous avez trop de mémoire, ça peut aider. Maintenant, je vais vous demander en fait de vous préparer pour la montée au bloc opératoire. Oui. C'est-à-dire, vous allez vous déshabiller entièrement, oui. en enlevant tous vos habits, vos sous-vêtements, bijoux si vous en avez, montres, il faut enlever.
D'accord.
Donc, vous vous préparez, vous vous changez ici, vous restez ici. Dès que le bloc opératoire me téléphone, je viens vous chercher et je vous accompagne.
D'accord, merci.
Bonjour. Vous avez des questions ?
Non. Merci beaucoup.
On imagine quand même une certaine nervosité hein, chez Stéphane Kakamo. On compatit.
Je vous félicite.
Pourquoi donc ?
Ah, je vous félicite, mais vous avez bien retenu son nom.
Ah oui, mais ça c'est grâce à l'infirmière qui a bien fait son travail. Je sais comment il s'appelle,
oui.
et je sais exactement de quoi il va être opéré.
Ben bravo. Non, ça paraît bête, hein, mais effectivement, cette vérification est importante et on ne doit pas vérifier notamment l'identité n'importe comment. Par exemple, et ce sont des cas qui se sont présentés, vous demandez au patient... Vous êtes bien monsieur Gonzalez, et lui, dans une certaine confusion, dans un certain stress, ou peut-être dans un état légèrement second, parce que vous venez de lui administrer un médicament pour le détendre, peut-être que le patient pourra vous répondre que oui, alors qu'en fait, il s'appelle pas Gonzalez, il s'appelle Fernandez. Et donc ça s'est présenté. Hein. Donc c'est vraiment au patient de décliner de lui-même son identité, tout comme d'indiquer ce pourquoi il est venu se faire opérer. Si ce patient avait dû subir une narcose complète avant qu'il arrive finalement dans la salle d'opération, le chirurgien serait venu dans sa chambre pour indiquer au stylo l'endroit sur le corps où il faut opérer, tout cela sous les yeux du patient encore réveillé pour être sûr que... Voilà.
Bah, histoire que le médecin ne se trompe pas de sein ou de jambe s'il faut amputer. Non, mais ça, c'est vu. Hein,
oui, bien sûr. C'est exactement ça. Alors maintenant, je vous propose de nous rendre dans le bloc opératoire. Notre patient y a été installé. Il est allongé sur la table d'opération. Le chirurgien Claude Picofer, tout de vert vêtu, masque et charlotte sur la tête, vient saluer son patient.
Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous?
Le bien, vous.
Je vous ai bien installé, couvert et tout.
Oui.
Je peux juste encore une fois voir ce qu'on,
oui.
ce qu'on voulait faire. C'est...
On a la poule voilà, ouais. qui est là sous les voilà.
Je vais juste faire une petite marque avec le, oui. le stylo feutre parce qu'après on a un peu plus de peine à la voir. Ok. Alors, ça joue comme ça?
Mais oui.
Vous êtes en forme?
Oui.
C'est pas votre première anesthésie locale, ou bien?
Non.
Vous avez jamais eu des allergies ou
non.
quelque chose
non.
comme ça? Vous n'avez pas pris de médicaments ces deux fois dernier jour?
Non.
Ok. On peut juste vite faire un petit briefing ensemble pour le Donc, enfin, vous avez vu cette petit chantage ira bien. On prend du 1% avec. Je vous dirai pour les films, je pense qu'il faudra un 3-0, peut-être un surjet de 5-0. On se garde la réserve si jamais ça saigne beaucoup de mettre un manovac pour 24 heures. Puis là, sur le bras, il n'y aura même pas besoin de faire une suture. Ça, c'est juste une petite excision tangentielle. Hein. Pour vous, c'est clair?
Oui,
c'est comme
bon.
Ça. Ok.
Docteur Picofer, là, ce petit briefing, ce moment où vous parlez en l'occurrence aux deux aides de salle, c'est important?
Oui, c'est important. Bon, là, c'est une opération relativement simple. Quand même, c'est utile d'être au clair. Il y a du reste des études qui montrent que des équipes qui font des briefings, les opérations vont plus simples. Là, on a parlé par exemple des fils dont j'ai besoin, d'éventuels matériels. C'est plus simple si c'est clair déjà qu'on pourrait utiliser ça que d'avoir quelqu'un qui doit sortir de salle, courir, etc. Perdre du temps, augmentation théorique de risque d'infection, etc. Donc même pour une petite chose, en principe, on se prend. Vous avez vu là, on a pris quoi, 30 secondes ou comme ça, juste pour savoir ce qu'on fait et pourquoi.
Et alors, Stéphane Gabiou, là, c'est bon, on peut opérer?
Ah non, il faut encore une toute dernière chose. Une fois que le champ opératoire a été installé, une fois que le chirurgien et l'instrumentiste sont équipés de gants et d'habits stériles, eh ben, on fait ce qu'on appelle un time out, comme un tout dernier temps mort, si vous voulez, juste avant l'incision, histoire de s'assurer une dernière fois d'avoir pensé à tout.
Vous confirmez l'identité du patient?
Voilà, on le connaît.
Le site de l'intervention?
On l'a dessiné, c'est clair.
Intervention et installation?
On est bon.
Antibiotiques?
Il n'y a pas besoin.
Événement critique?
On a dit la seule chose qui peut arriver, c'est que ça saigne un peu plus. Donc dans ce cas, on mettrait un drain. Mais...
Voilà. Et imagerie?
On n'a pas besoin. Time out terminé, merci.
Et là, eh bien, le sang va gicler, le patient va hurler à la mort, mordre oui, l'infirmière,
c'est bon,
finir avec un scalpel planté oui. dans le bas du ventre. Non, c'est pas ça.
Non, calmez-vous un
non,
peu.
Non. Ça s'est très bien passé. Le chirurgien a juste enlevé la boule de graisse ainsi que la petite tumeur cutanée sur le haut du bras. Mm-hmm. Double opération qui aura duré 20 minutes, 35 secondes. J'étais là, j'ai chronométré.
Voilà. Tout est terminé donc.
Mais pas tout à fait, non. Puisqu'à la fin de l'opération, une dernière checklist et un court débriefing sont encore nécessaires.
Là, ce que vous voyez que l'instrumentiste est en train de faire, elle contrôle sur une liste si elle a tous ses instruments. De nouveau, comme pour une grande opération, parce qu'on pourrait avoir des instruments oubliés.
À l'intérieur du patient.
Dans le pire des cas, c'est justement ça qu'on veut éviter. Ouais. Mais ça pourrait être, par exemple, juste une aiguille de suture qui a disparu, etc. Elle a certains points qu'elle contrôle comme ça. Comme on a fait la petite checklist au début, il y a une checklist de fin d'intervention.
Donc, des comptes d'instruments, de compresses et d'aiguilles.
Voilà.
Prélèvements, vous vérifiez que les prélèvements sont
correctement étiquetés. Avec l'étiquette du bon patient.
Parce que là, le petit bout de graisse qu'on a envoyé, ça part au laboratoire. Il y a des fois, sur une journée opératoire, il y a une douzaine, quinzaine de cas. C'est de nouveau un risque de confusion qui peut avoir des conséquences graves. Hein. Si tout d'un coup, c'est confondu avec le patient ou il ressort une tumeur terrible, et puis qu'on dit à monsieur, oh là là, il faut qu'on vous réopère parce que c'était pas seulement quelque chose de banal. Donc ça, c'est de nouveau des confusions simples qui peuvent avoir des conséquences graves et où il faut un certain formel pour que ça joue. On veut juste peut-être faire un petit débriefing de cette intervention. crois qu'on l'a fait comme c'était prévu. Il n'y avait pour moi pas de problème. J'étais content, Servin, que vous m'aviez rendu attentif à ce petit saignement à la fin, parce que c'est le truc typiquement qui saigne, qui embête, où le patient doit revenir après, faire le pansement, ou bien même drainer un hématome. Donc c'était bien qu'on ait pu voir ce saignement. Je crois qu'on a bien avancé, on a fait. Je ne sais pas s'il y a des remarques de votre part.
Non, pas du tout.
Pas jour.
Tout va bien.
Ben, merci. On continue comme ça.
D'accord.
Donc voilà pour ce qui se fait dans un hôpital, Stéphane Gabiou, avant, pendant et après une intervention. En l'occurrence, c'était à l'hôpital du Chablais, dans le but, on l'aura compris, de limiter au maximum les erreurs par ce système de checklist et de briefing-débriefing inspiré, on l'a dit au début, de ce qui se fait dans l'aviation.
Oui, et à noter sur notre page internet, entre autres, les références de la Fondation pour la sécurité des patients qui prodigue un certain nombre de conseils pour nous, patients, histoire d'arriver finalement mieux informés à l'hôpital. Nous avons, on leur a compris, également un rôle à jouer.
Mmh. Maintenant, là, on a essayé de tout faire en sorte pour que les accidents, les erreurs soient prévenues. Malheureusement, de temps en temps, des erreurs sont quand même commises. Et oui. Là, c'est un peu la loi de l'omerta. Enfin, je ne sais pas comment les hôpitaux gèrent ce genre de situation. Alors, après l'erreur.
De mieux en mieux, a priori, avec une transparence de plus en plus grande. C'est la question finalement qu'on va aborder maintenant pour terminer cette émission. Claude Picoffer parlait tout à l'heure du fait qu'il faut pouvoir analyser la faute, comme dans l'aviation, effectivement, où on va ouvrir finalement la boîte noire et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parmi les hôpitaux qui ont pris le taureau par les cornes et qui traquent les erreurs de manière intense, il y a les hôpitaux universitaires de Genève. L'idée, c'est vraiment d'améliorer le recensement des erreurs et de prendre des mesures pour les éviter. Pierre Chopard, médecin adjoint responsable au service qualité des soins des HUG, nous présente la façon dont on collecte au HUG les incidents commis dans chacun des services.
On a un système dans les HUG où on a décidé de mettre en place des groupes incidents qui sont constitués de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants, d'administratifs. Donc chaque service doit avoir un groupe incident en charge de l'analyse de ces derniers. Et une synthèse est faite au niveau institutionnel une fois par année.
Des groupes incidents qui récoltent les données sur les incidents qui ont lieu dans chaque service, donc en précisant que le personnel soignant n'est pas systématiquement obligé de déclarer un incident.
Alors ça dépend des conséquences. Si c'est un incident, c'est-à-dire un problème qui survient sans conséquence pour le patient, on est effectivement dans des systèmes de déclaration volontaire. Donc chacun déclare ce qui lui semble être utile à déclarer. Par contre, si on est dans une problématique où il y a un préjudice pour le patient suite à la survenue de ce problème, il y a une obligation de déclaration pour les professionnels.
Alors quand il y a obligation, voilà, on imagine qu'ils vont le faire. Spontanément, s'il n'y a pas d'incident sur le patient, est-ce que beaucoup de vos confrères se signalent en disant ben voilà, j'ai commis telle ou telle erreur ?
On sait que globalement, dans tous les hôpitaux, que ce soit en Suisse ou dans le monde, on ne peut pas évidemment déclarer tous les incidents. On dit parfois qu'on déclare un incident pour jusqu'à 100 incidents avérés, on en déclare un, donc c'est évident qu'il y a une sous-déclaration. Mais ça n'empêche pas que sur les incidents déclarés, il y a des grosses améliorations qui peuvent être apportées et dont les patients bénéficient. Pour vous donner un exemple, actuellement dans les HUG, on déclare environ 5000 incidents par année.
5000 incidents mineurs par année. Si ça représente 1% de l'ensemble des incidents, ça signifie qu'il y aurait quelque chose comme 500 000 incidents chaque année, rien que dans les hôpitaux universitaires de Genève. Oui. C'est énorme.
Oui, mais c'est un chiffre théorique, évidemment. On réalise en tout cas effectivement que les incidents sont nombreux, courants, pas que évidemment dans ces hôpitaux à Genève, hein, c'est partout comme ça. Mais voilà, c'est pas pour autant que ces incidents doivent aujourd'hui être considérés comme une fatalité. Il faut vraiment changer la façon de voir finalement ces erreurs médicales.
Oui, mais est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'incidents qui ont des répercussions directes sur le patient ?
Alors à Genève, c'est en moyenne 150 incidents graves par année.
Oui, mais j'imagine que ça ne doit pas être toujours évident pour un professionnel de déclarer spontanément « oui, voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur ».
Non, en effet, c'est la crainte d'ailleurs de beaucoup d'entre eux, raison pour laquelle les différents groupes d'intervention ne sanctionnent pas.
Non, c'est pas évident, ni pour un médecin, ni pour une infirmière, ni je pense pour n'importe quel professionnel de la santé. Mais c'est un peu notre éducation qui veut ça. On est quand même dans des systèmes où erreur égale sanction. Et c'est vrai qu'on se rend compte que dans nos organisations très complexes, axer la sécurité uniquement sur cette notion de culpabilité ou de responsabilité, c'est pas suffisant pour améliorer la sécurité. Bien sûr qu'il faut être responsable, mais vous avez beau avoir des professionnels compétents, vigilants, dans une organisation dans laquelle les processus sont pas bien conçus, eh bien ces professionnels-là auront plus de chances de se tromper. Donc il faut à la fois garder évidemment la responsabilité de chacun, il faut à la fois garder un très bon niveau de compétences individuelles, mais il faut avoir également une excellence sur le plan de l'organisation, des processus organisationnels.
Et récolter des informations sur le plus grand nombre d'incidents possibles est évidemment une façon de faire évoluer les pratiques, changer le système de soins pour limiter les risques d'erreur. C'est tout l'enjeu finalement fixé par la direction des HUG. Et puis grâce à la Fondation pour la sécurité des patients dont on parlait tout à l'heure, lorsqu'une nouveauté en matière de sécurité est mise en place dans un hôpital, eh bien elle est rapidement signalée aux autres établissements par un système de quick alert. L'idée est évidemment de jouer toujours plus justement cette transparence pour que tous puissent apprendre des erreurs des uns et des autres.
Les erreurs médicales et comment les hôpitaux agissent pour les limiter au maximum, c'était un sujet de Stéphane Gabiou à réécouter, bien sûr, en tout temps sur notre site internet, on en parle.rsr.ch. Merci beaucoup Stéphane.